Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille! Familial, 2 jours. Moniparental, 2 jours. Individuel, 2 jours. Grande famille, 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami, Roger Yangang, va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, pis ça tu le sais, Chef Maison, la solution. Hey, t'es là, toi. Bienvenue dans la Jasette du Barbu, épisode 280. On est mardi, il fait présentement moins 6 degrés à l'extérieur de nos studios. Le ciel, ma foi, est encore gris. Le soleil est caché sous ce soleil gris. Mais dans mon cœur, c'est scintillant et magique. Oh my God. Donc, mardi, plein de sujets pour toi. Ce matin, il est quelle heure? Il est 9h08. On a déjeuné, on a fait nos petites affaires ce matin, tranquillement, pas vite. Aujourd'hui, on a une journée quand même assez occupée. Donc, c'est pour ça qu'on enregistre de bonne heure. Oui, aujourd'hui, j'ai un dîner avec l'ineffable Jean-Yves. Par la suite, je dirais ça comme ça. J'ai un rendez-vous. important. Oui. Un coin de Ville-la-Chine. Voilà, c'est dit. Effectivement. Donc, comme je disais, plusieurs sujets, puis je vais commencer tout de suite avec un de vos sujets préférés. On n'en parle pas souvent de ce temps-là parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais là, je vois que dans l'actualité, ça commence à brasser. Évidemment, je vous parle du Canadien de Montréal. Oui, le Canadien existe encore, madame. Mesdames et messieurs, le Canadien existe encore. Plusieurs choses à propos du Canadien de Montréal. Premièrement, on a pu voir dans l'actualité que Gary Bettman voudrait enlever le repêchage 2022 à Montréal et le déplacer ailleurs. Parce que nous, à cause de nos conditions, là, on est la seule place au monde où est-ce que pas le droit d'avoir du monde dans les arénas. D'ailleurs, on va me faire vacciner une troisième fois là, en février. Là. Mais... m'a dit, je commence à être tanné, là, puis je commence sérieusement. Je regarde ailleurs ce qui se fait dans le monde, là. Excuse-moi, quand je vois qu'on est les derniers à déconfiner, là, ça m'écœure pas mal. Partout dans le monde, ils ont le droit à des rassemblements. Nous, on a le droit à 50 au Centre Bell. ce qui est complètement ridicule. Là, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que... moi, je dirais pas au gouvernement comment diriger, là. J'ai de la misère à diriger mon mon budget, mon propre budget. Fait que je leur dirais pas comment gérer, là. Mais une chose est sûre. Là, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur, là. C'est ça, les Québécois, là. Tu vois quelle sorte de peuple qu'on est. Là, on dirige pour les peureux, là. C'est ça qu'on fait, là. Ceux qui avaient déjà peur des microbes avant une pandémie, imagine-toi, là. Ceux, là, qui... J'en connais, là, personnellement, là. Qui, avant la pandémie, là, se lavaient au purel. Imagine-toi pendant une pandémie. C'est la folie furieuse. Donc, voilà. On gère pour les peureux. Il y en a, là, moi, j'entends du monde, là, me dire, hey, « moi, là... » Ça fait 2 ans que j'ai pas sorti de chez nous. Ouais, ouais, j'en connais, moi. Des gens que ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas sorti de chez eux, là. Puis je suis bien dans mes affaires. Mais ouais, mais Chris, t'es pas la moyenne, toi, là. T'es pas... on est ce qu'on est dans la vie, là. Mais je veux dire, Chris, t'es pas la moyenne, là. Moi, j'ai besoin de sortir dehors, là. J'ai besoin de voir du monde. J'ai besoin d'aller au resto. J'ai besoin... Si j'ai le goût d'aller quelque part, je veux y aller, là. Enough is enough, là. Non, mais à un moment donné, ça fera. Ouais, donc c'est ça. Là, on est en train de perdre le repêchage qui amène des revenus importants à la ville de Montréal. Le repêchage, c'est gros. C'est une fin de semaine complète. Parce qu'il y a plein de gens de partout dans le monde qui vont venir ici. Ça, c'est de la nouvelle argent. Est-ce qu'on peut, après 2 ans et demi de pandémie, là, est-ce qu'on peut se permettre de perdre cet argent-là? Ben moi, je dis non. Fait que, puis rendu au mois de juillet, là, tout va être correct, là. Fait que tu dis, c'est correct, on remplit, on accepte les billets, là, on sold out la place jusqu'au bouchon, sans belle esti, on en met sur le toit du monde. Ah oui, on remplit. Là, faut que le Québec fasse une chose, là, qu'on n'a jamais faite. Puis là, faut le faire pour le vrai. Open for business, esti. Open for business. Ouvrez les valves. C'est ça qui arrive. Regarde, Seattle, à un moment donné, est en train de mourir. Puis, on, à un moment donné, le maire de la ville, les dirigeants là-bas, l'État, ils ont décidé que la plus grosse ville de l'État de Washington, qui est Seattle, ils ont décidé qu'ils vont être open for business. Bon, aujourd'hui, Seattle est prospère. Aujourd'hui, Seattle est une des villes les plus importantes aux États-Unis. Oh, Microsoft est installé là-bas. Oh. Ouais, ben c'est ça. Il y a plein de compagnies qui se sont installées là-bas parce qu'ils ont ouvert les valves. Open for business. Ben, c'est ça qu'il faut faire. Puis ça commence... Ça serait un bon début avec le repêchage 2022 d'avertir Gary Bettman. François Legault devrait l'appeler. Hey, don't panic, Mr. Bettman. We got everything under control. Yes. So the Bell Center is gonna be full that day, that weekend. No panic, Mr. Bettman. The Bell Center is gonna be... plein au bouchon, as we see in French. Yes. Don't panic, Mr. Batman. Everything's gonna be good. We're gonna close the street. There's gonna be so much people for the draft. Don't panic, Mr. Batman. Everything is gonna be good. Are we gonna bring, like we do for the weekend and the F1? Yeah, we gonna bring escort everywhere around the Bell Center. Yeah. And even Réjean Tremblay gonna write good paper about you in the Journal de Montréal. So don't panic, Mr. Batman. We are open for business. My name is François Legault. Ah, OK, là, c'est assez, là. Bon, Mais bref, c'est ça. Faut être ouvert à faire de la business à un moment donné, là. Puis là, c'est le temps, là. Voilà. Puis là, c'est ça. Il y avait pas qu'une petite rumeur. Donc, j'entendais, écoute bien celle-là. Là. C'est des rumeurs, là. C'est rien de concret. C'est rien d'installé dans le solide, là. OK? Excuse-moi, j'ai un petit lapin ce matin. C'est mon expresso de ce matin. Bon, la rumeur. Cole Caulfield, puis un choix de première ronde aux Devils du New Jersey pour Nico Hischier. Là, on commence à parler de transactions pour Cole Caulfield. Mais tu vois, c'est ça le problème à Montréal. Puis ça va toujours être un problème à Montréal. Ça ne sera jamais réglé. On n'a pas de patience avec nos jeunes. Quand c'est le temps d'être patient avec nos jeunes, on ne l'est pas. Puis, à Montréal, on a c'est tout ou rien. On n'est pas assez patient ou trop patient. Exemple, Michael McCarron. Voilà. Donc, puis des fois, on a des attentes irréalistes. Exemple, Ryan Poehling. Un choix de première ronde, de fin de première ronde, c'est pas comme un choix de début de première ronde. Déjà, c'est très différent, là. Tu repêches dans les cinq premiers, t'auras pas le même genre de joueur si tu repêches dans les cinq derniers. Bon, Ryan Poehling, 25e au total, tu peux pas t'attendre à ce que ça soit Connor McDavid, là. Il y a 24 gars qui ont passé avant lui, là. S'il y avait d'un premier, inquiète-toi pas qui serait d'un premier. Là. Il y a tellement de recruteurs aujourd'hui. Non, bref, c'est ça. Déjà, on n'est pas patient avec Cole Caulfield. Puis moi, j'aurais tendance à être patient avec lui encore. Quitte à... Je ne sais pas, tabarnouche. Il me semble que moi, je lui ferais finir l'année avec le Rocket. Puis aller faire les séries avec le Rocket à Laval. Pour ma part, c'est ce que je ferais là, avec lui. Bon, Ryan Poehling, non, je le laisserai à Montréal finir son année. Sa première année complète ou presque à Montréal. Là, donc, moi, je le laisserai finir ici. Puis après ça, Poehling, moi, je le vois comme un... Il pourrait devenir notre centre de troisième ligne sans problème. Gros, grand, robuste. Oui, il pourrait devenir ce genre de joueur-là. J'aurais confiance en ses habiletés, en son caractère. Ça pourrait devenir un très bon centre de troisième ligne qui ne nous coûtera pas cher. Donc, dans ce sens-là, c'est parfait. Mais c'est pas ces deux lignes-là qu'on doit remplir si on veut avoir du succès. C'est les deux premières lignes. Donc, pour moi, la troisième et quatrième ligne, c'est interchangeable. Mais je vois bien un Poehling troisième ligne, centre de troisième ligne, j'ai pas de problème avec ça. Puis le transformer en spécialiste du piqué, du désavantage numérique, j'ai pas de problème avec ça non plus. Je pense qu'il pourrait faire une sacrée belle job. Mais le problème, quand tu veux avoir une équipe qui performe, ben ça te prend un bon goaler numéro 1, 4 bons défenseurs. 6 bons joueurs d'avant. Ces gars-là sont difficiles à aller chercher. Tout le monde les veut. Tout le monde veut un top 4 défenseur, un top 6 avant, un top goaler. Tout le monde veut ça. Hein? Il n'y a pas de doute là-dessus. Bref, il y a beaucoup de travail encore. Ben, je me répète, il y a beaucoup de travail en avant de lui pour Ken Hughes, pour Jeff Gorton. Mais ça, c'est correct. On s'en va vers le 1er mars. Ça arrive. Ça va être la date limite des transactions. J'ai hâte de voir ce qui va se passer à ce moment-là. Mais c'est pas une fin en soi. Pas besoin de tout échanger là. S'il y a des bonnes offres, tant mieux, on y va. Je pense à Edmonton. On parlait de Evan Bouchard, le défenseur. Ça tombe direct dans le genre de transaction qu'on doit faire. Evan Bouchard, pour moi, c'est un top 4 défenseur. Un jeune... Donc, il vient rejoindre un Caden Gooley qui va être un top 4 aussi, puis Alexander Romanov. Rajoute Jordan Harris, là, t'es ton top 4, là. Déjà. Après ça, ben le reste, c'est du grévé à défense. Mais bon, ça peut aller vite, là. Donc, c'est ça. Moi, je serais patient avec Cole Caulfield, vraiment patient. Comme je te dis, un gars comme Ben Chariot, moi, tant qu'à aller chercher un premier choix de fin de première ronde, ça va me prendre plus que ça pour laisser aller Ben Chariot. Parce qu'un un choix de fin de première ronde, c'est comme un choix de deuxième ronde ou presque. Là. C'est pas wow. Ça va prendre un joueur, exemple, un prospect solide de la Ligue américaine. Je te dis ça de même. Là. Premier choix de fin de première ronde plus un prospect solide de la Ligue américaine, là, on jase. Mais sinon, je pense que je le re-signe, moi, là, parce que c'est un gars... c'est un solide défenseur, Ben Chariot. Tu veux ça dans ton équipe. Mais pas à n'importe quel prix non plus. Là. Tu veux pas payer ça comme si c'était Bobby Orr, parce que c'est pas Bobby Orr. Tu comprends? Bref, je vais regarder le temps, parce que là... OK, 15 minutes, tabarnane. J'ai pas mal assez parlé du Canadien de Montréal. Fait que c'est ça. Cole Caulfield, moi, j'y touche pas. C'est dans mes intouchables. J'en ai trois, je pense. Caulfield, Nick Suzuki. Évidemment, là, Nick Suzuki... Cole Caulfield, Alexander Romanov, merci, bonsoir. Les autres, dépend ce qu'on va avoir pour, mais les autres, je suis ouvert à la discussion. Open for business, tiens, viens chercher mon autre sujet. Oh! Une vraie machine. Autre sujet, les installations olympiques. Avec un Z. As-tu vu sur Twitter, moi j'ai vu ça passer sur Twitter, cette image-là, de la pente de ski. C'est-tu de ski ou un de... Attends une minute. En fait, là, c'est une... j'ai l'image devant moi. C'est une piste pour le Big Air, OK? Il l'appelle le Big Air Sugan. Tu regardes de proche, la photo, c'est une belle piste, OK? Mais de loin, l'image, là, le Big Air a été construit sur une base nucléaire. C'est laid. Mais, sais-tu quoi? Je t'invite à aller voir cette image-là. Je vais la mettre sur la page privée des Patreons, les patrons du barbu. Une page privée exclusive au Patreon quand tu es abonné. Je vais vous mettre cette image-là. Tiens, je vais l'enregistrer. Voilà. Donc, pour moi, cette image-là représente très bien les installations olympiques, représente très bien les Olympiques. Pour moi, les Olympiques, ce n'est que du lobbying. C'est une machine à cash pour les gens riches. Les gens riches s'enrichissent, les gens pauvres s'appauvrissent. C'est ça la vérité. Puis on le voit, encore une fois, les Olympiques s'installent dans des pays... humainement parlant, d'une tristesse incroyable, un non-respect de l'humain. Tu sais, ici, en Amérique du Nord, là, on est au pays des woke, là, mais en Chine, c'est pas ça, là. C'est pas ça, là. Les woke, il ferait 5 minutes en Chine, là. C'est pas ça. On n'est pas là. On est encore à se battre pour les droits humains en Chine. Ben, tu connais mon opinion sur le pays qu'est la République de la Chine. Pas nécessairement sur les Chinois en tant que tels, mais plus à propos des gens qui dirigent ce pays-là, leur mentalité, leur façon de faire. Je suis pas d'accord avec ça. Eux, à la naissance, avoir une fille, c'est un sacrilège. Ce qu'ils espèrent, c'est avoir un garçon. Avoir une fille pour eux, c'est une défaite. Ils traitent ça comme si c'était des guenilles. Tu comprends? Bon, il y a plusieurs contextes à ça. Je me lancerai pas dans cette analyse-là, mais je le sais très bien. Donc, les Olympiques s'installent toujours dans des drôles de pays. La Russie, souvent. La Russie qui bafoue les droits humains. La Chine. C'est pas des pays. Si t'as de l'argent, là, si t'as ben du cash. Je te parle pas. Au minimum, il faut que tu sois millionnaire. OK? Minimum. Puis si t'es milliardaire, c'est encore mieux. Si t'es millionnaire, là, en Chine ou en Russie, il n'y en a pas de problème, là. Tu vas mener une sacrée belle vie, puis peut-être encore mieux qu'ici, là. Parce que tu ne payeras pas d'impôts, puis tu vas être traité autrement, puis bon, etc. Mais si t'es Joe public, Joe ordinaire, tu vas écouter, c'est pas la même vie, là. C'est pas la même façon de faire. Les droits sont pas pareils. Même si on pense ici, des fois, que nos droits sont bafoués, c'est pas la même chose. Donc, c'est ça, les Olympiques qui s'installent dans ce genre de pays-là. Moi, déjà, ça, juste ça à la base, je questionne. Pour moi, tu sais, on dit que les Olympiques, c'est la fête des sports. On célèbre le monde. On accote ça avec les Nations Unies, qui est un autre esti de gamique, là. Y a rien à voir avec la beauté du monde. Et on fait l'éloge de... du pays où est-ce qu'on est, puis bon. Exemple, quand il y a des Olympiques au Canada, la dernière fois, je crois que c'était à Vancouver. Bon. Ouais, c'est ça, c'était à Vancouver. Tu sais, l'ouverture, c'est toujours... L'ouverture au Canada, ça, c'est toujours avec avec les peuples inuits, avec les gens des Premières Nations. 365 jours par année, là, sont où nos Premières Nations, c'ti? Sont dans leur réserve. On les sort pour les Olympiques, on leur met des plumes dans le cul, là, on les coulore, on les peinture, là. Deux, trois, ça marche pas, on leur donne. Deux, trois miroirs, deux. Là, ils sont contents, c'ti. Non, mais tu comprends. Je suis ironique, là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tout ça pour dire que c'est de la bullshit, c'est du tape à l'œil. Puis moi, j'embarque pas là-dedans. Malheureux pour les athlètes parce qu'il y a des gens qui vont là de plein cœur. Tu comprends? Qui vont là pour performer, qui vont là pour se dépasser. Le dépassement de soi, etc. Oui, absolument. Mais moi, je vais au-delà de ce que notre pays envoie comme athlète. Je vais au-delà de l'humain qui s'envoie là-bas, des athlètes. Moi, je vois le big picture, la grosse photo. Puis elle n'est pas propre, puis elle n'est pas belle. Et si tu veux mon avis, les Olympiques ne devraient pas exister. Mais non. Tu sais, à un moment donné, ils se sont installés où? À Sochi. Ils ont démoli le village en Russie complètement. D'une pauvreté sans nom. Bon. Pour installer... Les estis d'installation olympique qui servent à rien après. Ben, c'est ça. Fait que ça fait... Ben, c'est ça pour moi, les Olympiques. Puis, t'as beau le nier, peut-être que là, t'es dans ton esprit olympique, mais dans une semaine, là, quand ça va être fini, t'en auras plus d'esprit olympique. C'est fini, t'y penseras même plus. Mais les installations aux autres, ils vont être encore là. Bref, je suis un peu rabat-joie ce matin, mais... Je trouve ça important de le dire parce que c'est la réalité. Puis ça a toujours été ainsi. Puis c'est le genre de choses contre laquelle on devrait se battre. Je le crois sincèrement. Pareil comme quand la F1, le cirque de la F1 arrive ici, la Formule 1 à Montréal. Le sport en tant que tel, c'est un beau sport. Bon, moi, je préférais à l'époque d'Alain Prost, d'Artun Senna, de Nigel Mansell. Bon, moi, je suis de Kiki Rosberg. Bon, moi, je préférais à cette époque. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que les gars conduisaient encore des voitures. Aujourd'hui, le chef d'œuvre, le maître d'œuvre, c'est un informaticien. Bon. Ben, c'est mon opinion. Tu as le droit d'aimer ça encore. Puis la F1, c'est une belle organisation, c'est un bon, il n'y a pas de trouble avec ça. C'est de la grosse qualité, clairement. Mais une chose est sûre, quand le cirque de la F1 arrive à Montréal, c'est pas comme le cirque de la... c'est quoi donc la... la F1, là, le nom, la... la F1 électronique, là, je me souviens plus comment qu'il l'appelait, non? Hey, ça, c'était ça un méga flop, ça. Mais c'est qui veut voir des Formule 1 électroniques? Ça n'a aucun sens. La Formule E. C'est ça la Formule E? Oh oui, c'est ça. Pas la Formule A. Non, E. Je le sais, pour électronique, je suis pas épais, mais... ça démontre son importance, là, c'est ça que je veux dire. Mais non, mais quand la Formule 1 se présente ici, là, le cirque de la Formule 1, c'est comme le mondial de soccer, c'est aussi important que les Olympiques. Ça génère beaucoup de revenus. Mais il y a des problèmes avec ça aussi, qui... On ferme les yeux. Tu sais, sur Crescent, là, le nombre d'escortes là, au pied carré, il y en a tabarnak, là. Mais non, on sort les chars, on sort les Ferrari, les Porsche, les Cayenne, hein, ouais, esti. On sort les Accent Hyundai. non, mais on sort les grosses voitures. Mais sous-jacent à ça, il y a une micro-société qui arrive avec la F1, là. Toute la rapace, toute la crasse, là. Il y a plein de lobbies aussi, là. Tout ça, ça arrive en même temps en ville, là. Ça, c'est pas beau. Ben, où est-ce qu'il y a de l'homme? Il y a de l'hommerie. Voilà. fait que je te parle des Olympiques, mais c'est la même affaire pour la F1. C'est la même affaire pour le mondial de soccer. Le mondial. Same shit. C'est des grosses organisations. Il y a beaucoup de bons. Dans ces organisations-là, évidemment, c'est prestigieux. Mais avec le prestige, il y a d'autres choses à côté qui est beaucoup moins prestigieux. Qui est crasse, qui est sale, qui est pas beau, qui est très dans les bas-fonds de l'humain. Pis ça a toujours été, puis ça va toujours être, que ce soit les Olympiques ou d'autres choses, ça va rester. Mais c'est, pour moi, c'est d'une tristesse sans nom quand je vois ça. Je peux pas m'empêcher quand je pense aux Olympiques. Je peux pas. Moi, j'ai cette conscience-là. Je peux pas m'empêcher de voir tout ça. Fait que moi, j'ai de la misère à apprécier le travail des athlètes à travers ça. Voilà. J'espère que j'ai réussi à synthétiser mon opinion. Des fois, je vais un peu partout. Mais bref, ouais, c'est un peu ça, tu sais. J'ai de la misère à aller au-delà de ça. Pareil pour le cirque de la F1 quand il arrive en ville. Je le sais que c'est beaucoup de revenus, que c'est important pour la ville de Montréal, pour le Québec. Mais je sais ce qu'il y a en arrière aussi qui est pas beau, qui est pas chic. Ouais, parce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, puis... Ben, c'est ça. C'est... Puis même si j'en parlerai pendant des heures sur mon podcast, mon podcast, ça changera rien. Clairement. Dernier sujet de la... Hey, on est dans le sport aujourd'hui, mais on est dans la politique, sport et société, tiens. Dernier sujet, ce samedi, puis là, c'est vrai, ce samedi, 12 février, manque pas ça. Le UFC 271. Oh! Une carte immense. Immensément immense. Énorme. Huge. Big. Wow, on va avoir toute une carte. Regarde là. Je vais juste te parler de la carte principale, OK? Juste celle-là, là. Si t'es un amateur du UFC, tu vas comprendre ce que je veux dire. Okay? C'est bien simple. La carte principale, c'est tous des bons combats. C'est tous des combats must-see, là. Premièrement, Bobby Green qui donne toujours des beaux combats contre Nasra voyons, j'ai de la misère à prononcer son nom, Akparas. Deux gars d'un lightweight d'un 155 livres qui sont toujours spectaculaires. Ça commence bien la soirée, beau combat de début de soirée. Après ça, tu te ramasses d'un bantamweight. OK? Ça, c'est dans les 145, c'est-tu 135? Je me souviens plus. Kyler Phillips contre Marcelo Royo. Un autre combat spectaculaire. Donc, bantamweight dans les 135 livres. Une division, comment je pourrais dire, stack? Ouais, c'est ça. Rempli du début à la fin. Quand tu penses que le 15e au monde, là, c'est un de mes combattants préférés. 15e. Là, Kyler Phillips et Marcelo Royo sont même pas dans les 15 meilleurs au monde. Imagine-toi, là. C'est des bons combattants, là. 15e au monde, c'est Marlon Chito Vera. Imagine-toi, 15e au monde. Puis là, on parle d'un top, 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 là. D'un athlète exceptionnel. Bon, je continue mes combos. Après ça, t'as Jared Cannonier dans les middleweight, dans les poids moyens, qui fait toujours des combats difficiles. Toujours difficile de se battre contre Cannonier. Ancien poids lourd, là, il est dans les middleweight, 14 victoires, 5 défaites, contre Derek Brunson. Wow, 23-7. Ça, c'est un combat à surveiller. Ça va être une guerre de tous les instants, une guerre de tranchées. Après ça, ben là, on a le combat qui sera le combat le plus spectaculaire de la soirée, d'après moi, en termes de puissance chez les poids lourds. Le gars qui a le plus de knockouts dans l'histoire du UFC, le Black Beast, Derek Lewis, affronte le up-and-comer australien, un native de l'Australie, je dois le préciser, 14 victoires, 3 défaites, Tai Tuivasa. Tai Tuivasa, Derek Lewis. Les deux gars avec le plus de puissance dans l'histoire du UFC. Et les deux gars avec le plus de puissance, évidemment, présentement. Eux, quand ils se battent, les deux, ils sont capables de se battre au sol, là, mais c'est limité. Mais ces gars-là, ça reste debout puis ça va se taper sur le nez. Ça, c'est deux gars qui se battent debout. Comme on dit, mano to mano, flat foot, les pieds bien ancrés au sol, puis ils vont swinguer. C'est ça qu'ils vont faire. Ils vont faire les moulins avant jusqu'à temps qu'il y en ait un des deux qui tombe. Ça va être ça la demi-finale du UFC 271. Et puis, quand Tai Tuivasa remporte, le native australien, l'aborigène, quand il remporte l'aborigène, tu sais, qu'est-ce qu'il fait? Il demande, il s'en va sur le top de la cage avec ses tatous tribales partout sur le corps, de la tête aux pieds. Le native, l'aborigène australien, un de mes combattants préférés d'ailleurs, parce qu'il est raw, il est cru, il est vrai, tu peux pas être plus vrai que ça. Tout vous, ça, il demande à la foule, il demande à quelqu'un dans la foule d'y pitcher un soulier qu'il y a dans le pied. Ça arrive à tous les fois. Il est sur le top de la cage. Il y a quelqu'un dans la foule qui pitche un soulier. Il demande une bière. Il y a quelqu'un qui pitche une canne de bière. Il verse la canne de bière dans le soulier. C'est une tradition. Puis il boit dans le soulier. Drink in the shoe. There you go. Tai Tuivasa. Donc, j'ai bien hâte de voir ça, Derek Lewis contre Tai Tuivasa. Mon cœur va pencher du côté de l'aborigène, du native, de l'Australie, Tai Tuivasa. Et la finale, non la moindre, toute une finale, un combat revanche. L'ancien champion de l'Australie, Robert Whittaker, le Ripper, 24-5. Quel combattant! Affronte le champion des moyens depuis très longtemps. 21 victoires, une défaite dans les Milo, pas chez les poids moyens. Chez les poids moyens, il est 21-0. Israël. Adesanya. Quelle finale. La dernière fois, Israël avait découpé Robert Whittaker en deux. Il l'avait fendu en deux. Mais il n'est plus le même homme. ça devrait être tout un combo. Je te fais pas mes prédictions aujourd'hui. C'est assez, là. Hein? T'en as eu pas mal aujourd'hui, là. Regarde, il y a combien de temps de fait, là? Hey, ça fait 33 minutes, là. Tu vas arrêter de broyer. Bon. Fait que c'est ça, la carte du UFC 271. On est justement mardi. Je vais te faire mes prédictions d'ici vendredi. Sur ce, je te souhaite un beau mardi. Moi, je vais aller manger avec mon ami Jean-Yves. Et après, j'ai un rendez-vous important. Quoique. Hein? Bref. Je m'en vais dire, comme je disais dans le temps que je faisais du CB, à la chute. Et que mon surnom était Red Lobster. Tu connais évidemment la ritournelle qui va comme suit. Pout, pout, pout. Ciao, ciao, ciao.
Tu veux du swag? T'es sérieux à propos de ta barbe? Tu veux une coupe de cheveux dans le vent? Ben, j'ai le spot pour toi et tes enfants. Alex le Barbier. C'est facile, tu peux réserver en ligne, alexlebarbier.ca, ou tu peux appeler directement au 450-602-7022.